Bonsoir à toutes et à tous pour cette dernière émission en direct sur Libre QG, quartier populaire assez exceptionnel évidemment, sur un sujet qui nous a tous coûté à différents niveaux parce qu'on va voir qu'on n'est pas tous égaux devant ce sujet, contrairement à ce que certains pensent. Alors on reçoit ce soir Clément Sénéchal. Bonsoir, bonsoir Clément.
Bonsoir,
Merci
merci de
d'avoir
m'accueillir.
accepté voilà, notre invitation pour discuter de ces sujets. Donc moi, je t'avais rencontré un peu par le biais évidemment des réseaux. J'ai pu lire des choses que tu as pu écrire sur le sujet, dont un très bon article, je le conseille, il y a quelques jours, on le mettra en lien hein, de frustration sur ce sujet, sur la canicule et sur le rapport qu'on a et les injustices sociales autour de cette question. Donc Clément Sénéchal, tu es passé par la sociologie, par la philosophie, ce qui est plutôt une bonne chose. On peut
N'est-ce
dire que
pas?
tu étais spécialisé, on va dire, dans les enjeux climatiques. Tu as été porte-parole d'une ONG, tu as travaillé dans ce domaine-là. Tu as évidemment analysé de façon critique, hein, un peu, voire très critique, ce passage-là. Donc tu as une expertise en fait de l'intérieur. Hein, c'est ça qui est intéressant dans ton parcours. On sent que c'est un sujet qui t'anime depuis très longtemps. Hein, on n'est pas dans la dernière demi-heure, hein, de la préoccupation de la dernière semaine. C'est quelque chose qui est
Non, ouais.
viscéral chez toi. Je reviendrai d'ailleurs sur la fin de ton livre où tu parles du Mont Blanc. C'est un passage magnifique, hein, du livre. Voilà, donc on t'accueille pour parler de la canicule. Alors, le titre, évidemment, la fabrique d'une défaite, on a choisi ce titre pour bien expliquer que on n'est pas dans le fatum. Voilà, on n'est pas dans le on ne peut rien faire, hein, c'est comme ça. Ou comme Dominique Seux nous explique que nous sommes les champions, hein, finalement, les champions de l'adaptation à la canicule et au réchauffement climatique, hein, en se lançant comme ça des brassées de fleurs. Donc il y a derrière tout ça des choix politiques, on est là pour parler de tout ça, des choix politiques, des inégalités sociales, des violences sociales même qui sont liées à ce sujet. Alors la chaleur est légèrement passée, on va dire, même si on annonce une nouvelle vague de chaleur, elle est légèrement derrière nous, et le risque c'est qu'on passe à autre chose, Clément. Hein, on sait comment fonctionne voilà, l'actualité. En Gironde en particulier, moi je suis à Bordeaux, on a battu des records absolus. Hein, alors pas qu'à Bordeaux, mais il y a eu des records absolus. Je rappelle quand même 40,2 degrés à Arcachon. Hein, hein, la
Ouais.
fraîcheur arcachonnaise, on en est quand même très très loin. On rentre actuellement hein, dans une phase de sécheresse intense hein, dans certains départements,
Ouais.
avec un stress hydrique qui est énorme. Hein, on parle aujourd'hui de 1976 avec 3 semaines d'avance. Hein, donc il faut quand même mesurer l'ampleur du phénomène. Alors, on va revenir évidemment avec toi d'abord sur ce phénomène, ensuite sur les éco-politiques et les positionnements des uns et des autres par rapport à cette question, et puis après plus largement hein, à la question, on va dire, de l'écologie, l'écologie politique, la lutte hein, et la façon dont on est perçu lorsqu'on aborde ces questions-là. Hein, on a récemment été traité d'éco-terroriste hein, en faisant certaines actions sur l'A69. Alors d'abord, ma première question, Clément, est-ce que tu peux un peu nous faire un tableau rapide hein, de ce qui s'est passé en France? On est un peu stupéfait et de sa profondeur, de son ampleur et de son caractère profondément inédit, en fait.
Bah, ce qui s'est passé, c'est une canicule d'une intensité inédite, comme tu viens de le dire. On a eu 2 à 3 journées qui étaient les plus chaudes jamais enregistrées à l'échelle du pays. On a eu 30 degrés pendant 24 heures, ce qui n'était jamais arrivé en France. On a eu des nuits avec des valeurs extrêmement élevées aussi. On a eu un record de 44, tu mentionnais le bassin d'Arcachon, mais il y a eu 44 en Vendée, plus de 44 degrés, qui est quand même complètement délirant. Et le caractère précoce hein, de la canicule que tu l'as mentionné aussi. On n'est pas encore en plein cœur de l'été et pour autant on arrive déjà à battre à peu près tous les records avec un bilan qui est épouvantable en réalité. Alors là, en termes de pertes humaines, on parle de 1000 morts jusqu'à présent, mais il faut savoir que le bilan, il va avoir du temps, il va mettre beaucoup de temps avant de se consolider, que déjà c'est compliqué de relier les décès qui sont souvent multifactoriels à la cause. Exclusive de, en tout cas différenciée des fortes chaleurs. En 2003, on avait parlé de 15 000 morts, mais ça avait pris des mois avant de réussir à comptabiliser tout ça.
Oui, parce qu'il y a un effet de, il y a un effet de, comment dire, de délai, entre guillemets.
Absolument. Puis ce sont des données qui sont extrêmement sensibles. Donc, si personne se bat, si la société civile va pas les chercher avec les dents, on les aura certainement pas, ou on aura des chiffres extrêmement conservateurs. Bon, c'est pas spécifique non plus à cette canicule. L'an dernier, il y avait plus de 5 000 personnes qui sont mortes de la chaleur en France. Donc, il y a déjà une surmortalité qui est liée au réchauffement climatique. Au niveau européen, c'est un peu moins de 200 000 par an. Et ça signifie tout simplement que dans les pays développés, des pays riches comme la France, on meurt de la chaleur, on meurt de chaud. C'est palpable, c'est tangible. Et derrière les statistiques, faut se rappeler qu'il y a des vies réelles. Je pense par exemple à cette histoire assez épouvantable de deux jeunes garçons, deux jeunes frères de 2 et 4 ans qui sont morts déshydratés dans une voiture qui était garée dans l'allée du pavillon de la famille à laquelle elle appartenait. Donc au-delà des morts, il y a des familles qui sont endeuillées, il y a des gens qui sont traumatisés, il y a des gens qui sont lessivés, épuisés, il y a des gens qui sont déprimés. Il y a des gens qui, pendant plusieurs jours, ont été incapables d'accomplir leur mission sociale, de faire leur travail correctement, notamment les enseignants. Il y a des gens qui n'ont pas réussi à tenir le choc. Ça, c'est le bilan humain, mais derrière, il y a aussi un bilan matériel qui est plus vaste. Il y a des gens qui ont été coupés d'électricité pendant plusieurs jours. Donc, le réchauffement climatique, il a un impact sur les infrastructures. C'est des infrastructures qui se déforment. C'est aussi des pertes agricoles qui sont massives. Et au-delà de la grille de lecture anthropocentrée, c'est aussi un impact considérable sur la faune et sur la flore. Là, moi, je suis en Creuse, dans un secteur qui est forestier. Où tu te promènes, tu vois des arbres qui sont d'ores et déjà grillés sur pied, hein, qui sont morts. Et l'ensemble des arbres qu'on commence déjà à perdre leurs feuilles avant même l'automne, c'est-à-dire qu'ils seront davantage exposés. Et c'est une faune, c'est des points d'eau qui disparaissent, des cours d'eau, des étangs, des mares. Donc, c'est des mammifères qui peuvent plus s'abreuver. Ce sont des poissons qui meurent de chaud, asphyxiés dans les étangs. Ce sont des oiseaux qui tombent des arbres. D'ailleurs, la LPO vient de dire là qu'ils étaient submergés parce qu'ils ont des refuges où on leur apporte des oiseaux à secourir et ils commencent à être complètement submergés par l'afflux d'oiseaux morts ou d'oiseaux en détresse. Et c'est aussi une perte massive dans les animaux d'élevage. Si je regarde juste la Bretagne, par exemple, on parle de 5 000 tonnes. 5 000 tonnes hein, d'animaux d'élevage qu'on est en train d'enfouir parce qu'ils sont morts de la canicule. 5 000 tonnes, ça veut dire en poules, par exemple, c'est 2,5 millions de poules qui ont crevé la gueule ouverte à cause de la canicule. Donc c'est un impact qui est majeur, qui est considérable, qui est systémique, qui frappe l'être humain, mais tout ce qui l'entoure de vivant aussi, la faune et la flore, la végétation, et qui est malheureusement amené à se reproduire. Donc là, on rentre à un moment donné, dans un moment où la mutation climatique, elle devient tangible, elle commence à s'installer, mais où elle va se démultiplier. On n'en est qu'à la bande-annonce en quelque sorte, pour la raison évidente que les émissions de gaz à effet de serre, après un demi-siècle de négociations climatiques, continuent d'augmenter à la surface de la planète, alors qu'elles sont l'ingrédient numéro un du réchauffement climatique et donc de ses conséquences concrètes comme les canicules.
Ouais, alors qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui te dirait, oui, moi j'ai passé le bac en, je sais pas, moi, en 76 et puis il faisait chaud. J'ai passé le bac en 92 et il faisait la canicule. On est face à quelque chose qui est terrible parce qu'on a des impressions d'eux, on a des ressentis d'eux, on a des souvenirs d'eux. Moi j'ai le souvenir d'une rentrée universitaire à Toulouse où il faisait très chaud. Avec mon souvenir, on était à 35, pas à 44, quoi. En fait. Donc, comment déjà faire comprendre quel levier on peut avoir rapidement pour essayer de faire bien saisir ça, je dirais, au plus large public. Et qu'on n'ait pas à chaque fois à se justifier un petit peu de oui, mais on a déjà connu, oui, mais, etc.
Bah, là, très clairement, on atteint quand même des températures qui mettent les corps à rude épreuve, les corps et les psychés. Hein. Il y a des gens qui commencent à être vraiment terrifiés. Tout le monde a bien compris que c'était le prologue à ce qui allait se passer. Après, il faut rationaliser, objectiver, donc il faut avoir ce débat sur des valeurs concrètes, hein, les nombres de morts, la démultiplication des périodes de canicule. Après, en réalité, pour moi, ce n'est pas un aspect prioritaire au sens où les climato-sceptiques en France sont extrêmement minoritaires. Hein. Il n'y a que 3%, je crois que c'est autour de 3% de gens qui nient la réalité du réchauffement climatique. Alors, il y a une autre variété, si on inclut les gens qui considèrent, et on en trouve beaucoup au Rassemblement national, que c'est pas le réchauffement climatique n'est pas d'origine anthropique ou humaine, ou en tout cas qu'il y aurait débat sur ce point-là. Là, on monte autour de 30%, mais pour autant, ça fait pas une majorité. C'est pas une majorité sociale et c'est pas une majorité politique. Donc, que les gens réalisent bien ou réalisent mal, en fait, l'ampleur et la répercussion, la déclinaison concrète du risque climatique. Pour moi, c'est relativement secondaire. La priorité, c'est de construire un projet politique qui devienne majoritaire, en capacité de s'emparer des leviers de l'État pour mener la bataille contre le capital. Parce que c'est ça aujourd'hui l'ennemi à abattre si on veut ouvrir des options écologiques. Je suis bien placé pour le savoir, parce que comme tu l'as dit, j'ai passé une petite dizaine d'années dans une ONG qui faisait du plaidoyer, qui rencontrait les ministères. Je veux dire, même la moindre réforme, la plus légère ou la plus paramétrique possible, quelle que soit la filière, quel que soit le secteur impacté, de toute façon, on se retrouvait en face avec des armées de lobbyistes, du chantage à l'emploi, de l'influence et de l'emprise politique sur les décideurs. Et donc, de toute façon, même les réformes paramétriques n'avaient pas le droit de citer dans l'architecture politique du macronisme, c'est-à-dire tout simplement dans le paradigme néolibéral tel qu'il
Oui,
s'est
ça, on va y revenir en
en ce
particulier
moment.
depuis le passage extraordinaire de Nicolas Hulot, que tu décris d'ailleurs très
Mais
bien dans le
voilà.
livre. Bon. Et évidemment, alors, c'est oui, moi je partage ton constat, c'est-à-dire que la violence en fait de ces chocs fait qu'au fond, cette question, elle s'impose d'elle-même en réalité. Et elle est là. Alors évidemment, il y a un sentiment, moi je crois quand même, un premier sentiment qui est, et c'est intéressant parce qu'on va vraiment rentrer dans le problème politique, un premier sentiment qui est de dire on ne peut rien faire. Bon, c'est un état de fait. Voilà, c'est un état de fait. C'est un peu pour ça que je parlais de Dominique Seux, que tu cites aussi, hein, je crois, dans ton article de frustration, où il dit, je ne sais plus exactement, mais... bon, bah, de toute façon, voilà, il va falloir s'adapter, quoi. Voilà, il faut s'adapter. Et donc, avec ce raisonnement un peu évidemment curieux, c'est de dire, comme on peut rien faire, au fond, c'est le fatum, il y a une adaptation et il y a un billet à faire. Puisque qui dit adaptation dit moyen qu'on va pouvoir utiliser pour s'adapter. Alors, certains nous parlent du blanc de Meudon, hein, on va y revenir sur les petits gestes. D'autres vont vendre massivement comment dire, des ventilateurs. Hein. Il y avait la grande journée ventilateur, hein, c'était Lidl, je crois, aujourd'hui, hein, qui faisait, voilà, avec des émeutes, hein, ça va bien se passer, quoi, des ventilateurs. Donc voilà, comment politiser, c'est ma question, un sujet que certains vont avoir tendance à naturaliser et à dire, bah, de toute façon, voilà, ça échappe aux politiques, de toute façon, par définition. Et au contraire, et d'une certaine façon, plus on progresse du point de vue de la croissance, de la productivité, plus on va trouver les moyens de répondre, évidemment, technologiquement à cette question.
Ouais, alors là, tu soulèves effectivement beaucoup d'aspects très intéressants. Bah, comment politique. Déjà, pour revenir au début de ta question propos liminaire, il y a eu un film qui était intéressant qui s'appelait Don't Look Up, je sais pas si tu te souviens d'Adam
Ouais,
Kay,
très
une
bien.
grosse météorite qui arrivait sur Terre. Et donc là, il y avait un déni général, et donc on continuait avec la même désinvolture bourgeoise à traiter le sujet sur les plateaux de divertissement mainstream. Bon, là, en vérité, on faisait le parallèle avec le réchauffement climatique, sauf que c'était déjà un parallèle assez biaisé, au sens que la météorite qui arriverait sur Terre pour provoquer une extinction, comme ça s'est passé par exemple avec les dinosaures, déjà c'est un événement imprévisible d'une part, et d'autre part, c'est un événement qui est extraplanétaire, c'est-à-dire qui ne relève pas du périmètre d'action de l'espèce humaine, alors que le réchauffement climatique, il procède en fait de l'activité humaine à 100%. C'est-à-dire si on exclut l'activité volcanique qui est absolument mineure et infinitésimale dans le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est 100% d'activité humaine. Donc on sait ce qui se passe. Par ailleurs, ça vient de nous. Donc ce qu'on fait, on est en capacité de le défaire. On est une espèce animale qui est dotée d'un sens politique et qui est en capacité de s'organiser politiquement et donc matériellement. Et donc c'est un sujet qui est complètement à la portée et qui n'est pas extrinsèque en fait aux capacités d'action de l'être humain, de l'individu et de l'espèce humaine et des sociétés qui forment avec ses congénères. Ça, c'est le premier point. Bon, après, il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs options qui sont sur la table. L'option capitaliste qui a prévalu jusqu'à maintenant, et tu l'as un peu rappelé dans ta question, ça a été de privilégier l'adaptation. C'est-à-dire que même au moment, dans les années 70, où il y avait le premier sommet de la Terre, où on a commencé à reconnaître politiquement et diplomatiquement le réchauffement climatique et la nécessité de l'enrayer, la position des États-Unis, qui était à cette époque le fer de lance du capitalisme, du libre-échange, du néolibéralisme, c'était, différents rapports officiels, hein, de privilégier l'adaptation en se disant résorber l'utilisation des énergies fossiles et par construction limiter notre empreinte matérielle, c'est-à-dire plafonner en grosso modo hein, l'accumulation interne aux sociétés capitalistes, ce serait trop cher en termes de productivité et de compétitivité, y compris de compétitivité internationale. On était au moment de la guerre froide à cette époque. Et donc nous, on va plutôt continuer à faire croître indéfiniment le PIB en libérant la production, c'est-à-dire en libérant les mouvements de capitaux, en se disant que plus tard, on aurait atteint un tel niveau d'aisance technologique et matérielle qu'on sera en capacité de contrecarrer les effets du réchauffement climatique d'une part, et d'autre part, de le réfréner en grande proportion. Et donc, il y a un mec, par exemple William Nordhaus, que je cite dans le papier sur Frustration Magazine, qui a été nobélisé hein, par la Banque de Suède, qui expliquait, qui calculait même des trajectoires de développement optimal qui situaient ça vers 2, 3 degrés même, en se disant que voilà, ça permettrait de libérer assez d'innovation et d'énergie économique pour derrière faire face au réchauffement climatique. Ça, c'est un raisonnement qui était et qui est in fine complètement darwinien. C'est-à-dire que pour moi, c'est la mise en place d'un nouveau darwinisme social, parce que ça veut dire que
Et parce qu'entre-temps, il y en a qui vont...
ça veut dire qu'on assume de propos délibérés de laisser crever certaines populations le long du chemin. Parce que déjà, plus 1, plus 2 degrés de réchauffement climatique, ça veut dire des désertifications, ça veut dire des tempêtes incontrôlables, ça veut dire des canicules, ça veut dire une montée du niveau de la mer, donc ça veut dire des déplacements de population massifs. Et donc l'idée derrière, c'est de se dire, bah, il y a une partie de la population et des publics qui sont dispensables. Et donc la politique d'adaptation de la classe capitaliste, en fait, elle est celle-ci. Elle est non pas de nier la catastrophe, on n'en est plus tellement de là, mais de la mettre en marché. Et en fait, en quelque sorte, je veux dire, faut pas compter sur les capitalistes pour organiser l'adaptation. Eux, ils vont organiser sa privatisation. Eux, ils vont se débrouiller pour que bah, leur circuit de fonctionnement, leur circuit de reproduction leur permettent de faire face à l'aléa climatique. Et donc, les stratégies qui se développent ces dernières décennies, c'est des stratégies d'emprise, de synergie avec les États, donc où la classe capitaliste va s'accaparer de plus en plus de domaines régaliens. C'est des stratégies de sécession fiscale extrêmement féroces. C'est des stratégies de démantèlement des services publics, ce qui débouche sur une précarisation en fait hein, des classes sociales les plus vulnérables. On voit très bien en temps de canicule, c'est ce que ça a révélé aussi, c'est que les populations vulnérables, leur refuge climatique, leur assurance vie, en quelque sorte, c'est des services publics qui fonctionnent, à commencer par l'hôpital. Donc c'est ça, et donc tout ça, c'est déjà une stratégie d'adaptation de la classe dominante, avec un boom. Je veux dire, aujourd'hui, les multimillionnaires, dans leur package de base, il y a le bunker semi-militarisé, il y en a, ça se développe, ça fait florès aujourd'hui en Nouvelle-Zélande. Donc c'est des gens qui se positionnent Pas tellement sur la fin du monde, mais sur la fin du monde commun. C'est-à-dire que, voilà, il y a des parties du monde qui vont devenir inhabitables.
Oui, ça, alors, juste un point, j'ai noté cette distinction qui est très intéressante philosophiquement, parce que souvent on parle de fin du monde, ce qui ne veut pas dire grand-chose, c'est plutôt l'apocalypse façon Don't Look Up, mais fin du monde commun, ça c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'ils acceptent en fait, et ils entérinent le fait que le monde commun et la décence commune qui va avec, et les effets de solidarité sociaux, hein, vont tout simplement disparaître. J'ai trouvé ce passage fort, est-ce que tu peux développer ça? C'est un point très intéressant.
Bah voilà, le réchauffement climatique il met sous pression davantage les gens, il organise du repli, y compris du repli même dans, physiologique dans la chair. Hein. Je veux dire quand on est capturé par les effets de la chaleur, c'est pas simplement, je veux dire, y a pas simplement un trouble psychologique qui s'exprime. La chaleur c'est une diminution des capacités du corps humain et du cerveau humain. Donc c'est ça place les individus de fait dans une perte d'énergie qui va avec une perte de socialisation, une perte de capacité organisationnelle, etc., etc. Et donc qui organise le repli des individus. Le réchauffement climatique, c'est des gens qui sont déracinés, c'est des gens qui sont jetés sur les routes de l'exil. Donc ça crée en fait du chaos social vis-à-vis des couches les plus vulnérables auxquelles on est en train de dire, en laissant délibérément filer le réchauffement climatique, on est en train de leur dire en fait votre condition sociale, elle ne va faire que se dégrader. Et que se détériorer. Et ce à quoi vous aviez accès auparavant, je veux dire les rues, les espaces extérieurs, vont devenir de plus en plus hostiles. Ce qui se passe avec les canicules sous en climat capitaliste, on va dire, c'est une privatisation de la fraîcheur, une socialisation de de la chaleur. Et donc tous les espaces communs deviennent petit à petit invivables, pendant que ces espaces communs par ailleurs se réduisent et sont privatisés de plus en plus, notamment les terres, les territoires. Par les ultra-riches, par les milliardaires, par les multi-millionnaires. Et donc, eux, c'est comme ça qu'ils s'adaptent. Ils précarisent, grosso modo, eux, comment dire, ils organisent la prévarication massive des ressources naturelles, de la disponibilité, des forces sociales, pour s'assurer des sortes de petits royaumes, de petites bulles individuelles dans lesquelles ils estiment pouvoir faire face à une apocalypse, climatique qui porte fondamentalement leur ADN, parce que bon, je veux quand même le rappeler, mais le réchauffement climatique, c'est pas juste l'activité humaine en fait, c'est l'activité des classes sociales supérieures. Si tu prends la France, en France, les 1% les plus riches, c'est une empreinte carbone qui est 10 fois supérieure à celle de quelqu'un qui serait situé dans les 50% les plus.
Alors que tu rappelles qu'ils sont 4 fois, je crois, les chiffres moins impactés par la taxe carbone, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un double effet de levier, quoi. C'est-à-dire à la fois, ils sont ultra minoritaires, c'est eux qui produisent et c'est eux qui, évidemment, ont les
Voilà, bah là on
bénéfices.
arrive effectivement sur ce que j'appelle l'écologie bourgeoise dans le bouquin, c'est-à-dire le type de politique publique qui a été déployée par la classe bourgeoise. Il y avait notamment la fiscalité carbone et donc la taxe carbone, qui sont des taxes qui est une taxe régressive, donc qui ne prend pas en compte le niveau de revenus, les conditions sociales des foyers, qui est strictement indolore pour les personnes riches. Mais qui par contre devient difficile à assumer pour les personnes pauvres. Et donc la classe dominante et l'écologie bourgeoise et les gens comme Nicolas Hulot, hein, et Yannick Jadot et tous ces gens-là qui applaudissaient et qui défendaient cette mesure des deux mains, c'est-à-dire on va faire payer les pots cassés du réchauffement climatique aux plus pauvres, aux gens qui en sont les moins responsables, puisque
J'avais bien
évidemment
compris les gilets
l'empreinte
jaunes.
carbone
Ouais.
des plus pauvres est complètement risible rapportée à celle des classes sociales supérieure, et c'est ce qui a déclenché les gilets jaunes, que moi j'estime un peu à titre provocateur comme être le meilleur mouvement environnemental de ces dernières années, pour une raison assez simple, c'est qu'ils ont réussi à problématiser, à poser sur la table la question du partage de l'effort. C'est-à-dire, qui aujourd'hui va faire les efforts climatiques, écologiques, énergétiques qui sont requis? Est-ce que c'est les gens qui déjà ont une empreinte carbone qui n'est pas universalisable, qu'on recoupe l'idée d'un monde commun, ou est-ce que ce sont ceux qui sont les plus pauvres, les plus modestes, pour qui sobriété, ça veut déjà dire précarité, qui souvent ont des pratiques consommatoires qui sont captives? Moi, en tournée, par exemple, avec le bouquin sur ce que je suis invité par pas mal de collectifs pour en parler. Il y a plein de gens qui sont quand même soulagés de venir, qui sont soulagés par ce que je dis et qui viennent me voir en me disant, bah, moi, je me sens ultra culpabilisé parce que je suis obligé de prendre ma bagnole pour aller au boulot. Et je n'ai pas d'alternative à ça. Et en plus, on me met une taxe carbone sur le nez. Alors
Ça,
que
là, ouais.
Arnaud, il a une empreinte carbone qui est 1600 fois plus ou 1200, je ne sais plus, plus importante qu'une personne qu'un Français moyen.
Et alors, c'est ça. Et alors, quand on comprend payer par rapport au service public, il faut bien comprendre une chose. Par exemple, dans l'éducation nationale, on en parlait avant l'émission, il y a des labels. Hein, des labels E3D, par exemple, de certification. Donc, c'est les établissements peuvent demander la labellisation. On peut très bien avoir la certification en ayant un établissement, c'est le cas en Sud-Gironde, qui est une passoire thermique. Donc, en fait, avec une consommation de gaz qui est stratosphérique, qui est payée par l'établissement, d'accord, sur fonds propres, et qui empêche ensuite, dans les zones rurales, de payer un bus pour aller à Bordeaux, par exemple, pour aller au théâtre. Donc,
Ouais.
en fait, les arbitrages seront faits entre se chauffer ou aller au théâtre. Parce que dans ces zones-là, c'est le bus et ça coûte très cher, sans parler des personnels qui doivent faire 2 heures de voiture parce qu'il n'y a pas de service public de qualité. J'ai même le cas en Sud-Gironde d'un établissement, il faut quand même être bien accroché, hein, avec le Covid, où en fait, il y a eu. Ils ont évidemment moins dépensé de gaz, hein, puisque le gaz était, était pas consommé, puisqu'il y avait le confinement. Le problème, c'est que le prestataire, lui, il a une prestation à l'année, donc en fait, il veut son paiement, et il y a eu remboursement d'un gaz qui n'a pas été consommé. Ce remboursement de gaz qui n'a pas été consommé, l'État est généreux, hein, le prestataire est privé, donc privatisation des gains et socialisation des pertes, c'est exactement ce que tu décris, c'est effrayant, et après évidemment, une fois qu'on a payé le gaz qu'on n'a pas consommé, hein, attention, on marche sur la tête, on ne peut pas payer le bus pour aller faire la démarche, voilà. Donc on voit que c'est très concret, ça, c'est en fait un arbitrage, parce qu'en fait ce sont des arbitrages entre le commun d'un côté, les services publics, et de l'autre côté, ces situations de vie dégradées avec un chantage terrible. Enfin, j'ai trouvé que cet exemple était effrayant.
Ouais, très instructif. Et après, là, tu parles de privatisation des gains, pardon. Ce qui est assez effrayant et dramatique à constater, et qu'on a vu là, de manière éclatante, de la manière dont s'est constitué le débat public à l'occasion de cette canicule, c'est qu'il y a toute une fraction du capital qui est en train de se cristalliser autour de l'industrie de la fraîcheur. Et que la climatisation, en fait, ça renvoie à ça. C'est-à-dire que la climatisation, c'est des acteurs privés, trustés par des acteurs privés. Au niveau international, c'est une centaine, je crois, c'est 130, plus de 130 milliards aujourd'hui comme marché. Dans moins de 10 ans, ce sera le double, d'après les projections économiques qui sont faites. Et donc, ces gens-là, cette industrie-là, qui accumule du capital, du pouvoir social et du pouvoir politique, sont des gens qui fondamentalement ont intérêt au réchauffement climatique, fondamentalement ont intérêt aux canicules. Et donc, ils vont déployer les artifices classiques du chantage à l'emploi et au-delà, les capacités d'influence, y compris économiques, qui vont pouvoir avoir, surtout si c'est le bloc bourgeois qui continue de gouverner, pour essayer d'entraver au maximum toutes les politiques qui pourraient enrayer les causes de leur profit, à savoir le réchauffement climatique. Et donc ça, c'est assez effrayant et ça n'a pas été débattu du tout dans le débat sur la climatisation. Par ailleurs, si on entre dans la climatisation par le marché, bah, ça veut dire évidemment des inégalités d'accès dramatiques entre les classes sociales, entre les différents ménages, d'accès à la fraîcheur. Donc là, il y a une urgence politique qui est de nationaliser et de socialiser en fait toute l'industrie de la fraîcheur pour éviter qu'on ait des protagonistes qui encouragent en réalité le réchauffement climatique. Là, il y a quand même toute une partie de la classe capitaliste qui voit la tournure que prend le débat sur la climatisation et qui se dit en fait, mais le réchauffement climatique, c'est un marché extrêmement juteux et nous, on va tirer les marrons du feu de tout ça. Donc il faut qu'on ait des opérateurs économiques qui ne soient pas guidés par l'appât du gain et du profit sur ces enjeux-là, c'est fondamental.
Oui, en sachant que sur le bâti, par exemple, il y a énormément de choses à faire. Hein. Bon, après Pannier Runacher, elle s'enthousiasme de tout. Hein.
Ah oui.
L'usine, c'est magique, la chaîne, c'est formidable. Elle le dit d'ailleurs, tu le reprends, je crois, dans l'article, hein, que c'est les champions. Enfin, vraiment, on est aux premières loges. Hein. On est les meilleurs, quoi, dans ce genre de secteur. J'en viens un peu. Alors évidemment, c'est un peu la deuxième partie de notre entretien. C'est la question, en fait, finalement, de toutes ces réactions que tu décris très bien, qui sont véritablement indécentes. Alors on l'a vu avec Dominique Seux, Pannier-Runacher, Il y a une sortie
Nature.
médiatique qui a fait vraiment son effet, j'ai envie de dire. J'ai presque envie de dire, il était temps. C'est Yann Barthès, tu le cites d'ailleurs en détail. Alors j'ai revu la séquence qui est vraiment d'un niveau d'indécence et de bêtise absolument, mais qui est vraiment intéressante si on va au-delà de ça. Il faut aller au-delà de simplement du cas de Yann Barthès et dire, en fait, on a retrouvé des habitus finalement on avait presque oublié avec les Gilets jaunes, une violence terrible en fait. Avec l'idée qu'on est tous égaux face à la. Voilà, c'est le contraire de ce que tu dis d'ailleurs, hein, par rapport à la canicule, à la chaleur, etc. Et avec cette espèce d'ironie obscène sur les personnes qui vivent sous les toits.
Oui,
Alors,
absolument. Ouais.
oui.
Non, mais Yann Barthès qui s'est moqué des gens qui vivent sur les toits et qui, grosso modo, se plaignaient leurs conditions de vie, alors que ça a un impact direct. Hein. Je veux dire, on a beaucoup plus chaud quand on est sur les toits. Je crois que l'impact en termes de mortalité ou de souffrance physique, c'est 4 fois supérieur au reste du logement en appartement. Et donc, Yann Barthès, il s'est moqué de ça. Il a étalé un mépris de classe, bon, qui est quand même l'ADN de cette émission. Mais là, ce qui était assez étonnant, c'est que je pense que c'était une sortie de route non maîtrisée. Parce que sur les coordonnées, à peu près génériques du mépris de classe, bon, voilà, c'est appréhendé. Ils font quand même attention. Ils essayent de donner le change et tout. Mais sur la question climatique, ils n'ont pas capté en fait que c'était une question matérielle et sociale. Eux, ils ne vivent pas dans ce monde-là. Eux, ils ont un corps abstrait, bien nourri, bien rafraîchi, donc ils considèrent pas que ce soit une composante socialement située. Hein, ils ont le loisir d'ignorer en fait ce qui se passe au niveau du corps. Et donc là, ils n'ont pas capté en fait où se situait la décence commune et la lutte des classes sur cet enjeu-là, et qui évidemment se déploie sur la question du logement, entre ceux qui ont un logement décent, ceux qui vivent dans des bouilloires thermiques et ceux qui vivent dans des grands appartements climatisés. Donc voilà, et donc on a eu cette désinvolture bourgeoise absolument détestable, où là tout d'un coup le surmoi médiatique s'était un petit peu évaporé, hein, peut-être à cause de la chaleur, mais qui n'était pas l'apanage exclusif de Yann Barthès. Hein. On
Non,
avait
non,
vu
non, non.
sur France Inter, moi j'avais déjà entendu, tu citais la chronique de Dominique Seux qui était absolument délirante. J'entendais Sonia de Villers, là j'en parle un peu dans l'article, donc j'y reviens, mais Sonia de Villers qui est dans la matinale. Elle a quand même annoncé un portrait, un sujet sur une écrivaine qui allait se dérouler sur la côte normande et que du coup, vu les chaleurs, ce serait un moment délicieux. Alors que moi, dehors, je regardais
Ouais.
par ma fenêtre, il y avait l'employé municipal qui était déjà, au bout de 30 minutes, adossé à un arbre à l'ombre, complètement sonné. Il avait réalisé un dixième de la surface à tondre. Voilà.
Ouais, c'est un peu les chroniques de Dame Tartine qu'on avait avec le confinement,
Ouais, voilà.
où chacun, dans son grand appartement spacieux en Bretagne, expliquait qu'il allait enfin pouvoir se mettre à la littérature, écrire, etc., et avoir le temps de s'épanouir. C'est marrant cette convergence, enfin c'est marrant, c'est terrible, hein, mais on retrouve cette convergence. C'est pour ça qu'on a parlé des Gilets jaunes, et tu en parles évidemment. On retrouve ce mépris, et ce qui est intéressant, ce que je note dans ce que tu dis, c'est vrai que normalement, ils maîtrisent les coordonnées du mépris de classe. Hein. Je reformule un peu ce que tu dis. Et là, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose qui a échappé. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que là, on révèle quelque chose comme si ce n'était pas un problème. Et ça, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça, que ce surgissement d'un problème que toi, tu étudies depuis longtemps, mais qui devient tout d'un coup un problème social. Et ça, c'est un tournant, à mon avis, qui est majeur. On a vu récemment, d'ailleurs, tu l'as reposté, hein, une pétition contre justement les propriétaires qui ne faisaient pas installer des volets. Hein, tout simplement sur les appartements locatifs. Donc là, on est dans une lutte, là. Il y a quelque chose qui est un peu de cet ordre-là qui est en train de s'établir. Je ne parle pas des gens qui se battent dans les Lidl pour, mais ça en fait partie aussi, hein, d'ailleurs, hein, pour aller chercher des ventilateurs peu chers et qui leur permettront de se rafraîchir et de vivre tant bien que mal dans leurs appartements surchauffés.
Non, non, mais c'est une guerre de classe, évidemment. Bon, on n'a pas attendu les canicules pour s'apercevoir que le capitalisme exploitait et abîmait les corps. Mais là, on arrive à un stade où les corps ne sont plus, enfin, la force de travail, en fait, n'est plus en capacité de se reconstituer lors des phases de repos, parce que les nuits deviennent complètement invivables, où des gens s'aperçoivent, même de la petite classe moyenne, disons, de la petite bourgeoisie, que bah, les espaces communs ont la capacité de maintenir à peu près son corps dans un confort minimal ne sont plus garantis parce que voilà, la canicule, elle s'infiltre partout, y compris dans des logements qui pourraient avoir l'air un petit peu chic parfois sous les toits ou un peu des trucs d'atelier d'artistes à Paris, voilà. Et c'est des gens qui s'aperçoivent que même tout ça est en train de devenir strictement invivable. Et bah, la classe médiatique, elle ne se rend pas compte de tout ça. C'est-à-dire, c'est des conditions matérielles qu'elle n'éprouve pas, qu'elle ne rencontre pas encore dans sa chair, desquelles elle est, des conditions desquelles elles sont strictement préservées. Donc elles n'ont pas conscientisé ça. Et elles n'ont pas les artifices de langage ou l'équipement symbolique en fait pour éviter ces sorties de route. C'est ça qui s'est passé, je pense, avec Yann Barthès, ouais.
Ouais, ça montre la profondeur en fait, oui, de l'évidence de confort. En fait,
Ça,
finalement,
absolument.
oui, même faire court. Enfin, moi, on est monté dans la salle où j'étais à 32, mais on a des collègues qui étaient à 38, 39. C'est absolument abominable en fait. On peut plus
Ouais, c'est
travailler, on peut plus
impossible.
penser, on peut plus rien faire en fait. Hein,
On se marie, hein, tu fais de la garderie, voilà quoi.
c'est abominable.
Mais donc,
Ouais.
on est rentré. Pour moi, on rentre vraiment dans une guerre de classe. C'est une nouvelle forme de darwinisme social. Alors, pour moi, le darwinisme est déjà intrinsèque au système capitaliste. Mais avant, il y avait quand même cette promesse de croissance, ou même quand tu étais en bas de l'échelle, ou même si tu avais des conditions de travail difficiles, même si tu étais dans des rapports sociaux qui étaient quand même relativement exécrables, au moins on te disait. Bon, bah, ta situation matérielle, tes conditions d'existence objective, elles vont quand même s'élever petit à petit, bah, grâce aux politiques de croissance capitaliste. Et là, on s'aperçoit qu'en fait, le prix à payer pour ça, c'est la dégradation de toute une dimension matérielle de l'existence. Et donc, quand on arrive au bas de l'échelle aujourd'hui, en situation voilà, d'apocalypse climatique latente, bah, ce pacte social, il vole en éclats, en fait. Il est rompu. Et donc, il y a toutes des classes laborieuses ou des classes subalternes, pour parler comme Gramsci, je pense, vont commencer à s'apercevoir qu'en fait, le monde qui est réservé par les capitalistes est strictement invivable et que leur condition individuelle est promise, en fait, à un déclassement et une dégradation qui va aller constante. Et là, ce qui est intéressant, c'est quand même de voir ce que propose le gouvernement actuellement. C'est-à-dire que là, ils sont en train de travailler à sortir des diagnostics du DPDE à, je crois, 400 000 brouillards thermiques qui ne seront plus étiquetés en tant que tels par de simples jeux comptables, en fait, parce qu'ils vont changer les seuils d'appréciation. Ils ont démantelé un organisme public qui travaillait justement sur l'expertise architecturale pour adapter le bâti aux conditions climatiques extrêmes qui s'avancent, etc. Donc en fait, ils n'en ont rien à cirer. C'est-à-dire sur tout ce qui relève des classes populaires ou de l'intérêt politique général, la classe au pouvoir n'en a strictement rien à cirer. Ce n'est pas son problème. Elle est dans des considérations qui sont budgétaires. Elle voit qu'il y a des marchés à prendre sur la fraîcheur et sur la climatisation. Et donc voilà, on est dans une fuite en avant qui est complètement fanatique et qui préfigure des contours de plus en plus brutales, à mon avis, d'une guerre de classe qui peut s'envenimer jusqu'à une forme de guerre civile, hein. Je veux dire, quand il y aura une canicule, mettons là, la canicule, elle a duré une semaine. Si elle dure 2 semaines, si elle dure 3 semaines, si voilà, il y a des gens qui sont dans l'épouvante en fait, hein, pendant une période indéfinie. Comment ça va tourner derrière? C'est des questions quand même qui deviennent extrêmement concrètes aujourd'hui.
Il faudra investir les Lidl pour faire court, quoi. Peut-être rentrer là-dedans, puisque
Ah
voilà,
bah ouais, bien sûr.
la
Il faut
climatisation.
exproprier, se réapproprier, exproprier. Il faut investir les châteaux, il faut
Ça.
investir les villas, enfin voilà, faut.
Alors, bon, on a évidemment comment dire, des velléités écologiques, on va dire. J'ai parlé des E3D, des éco-citoyens, des éco-responsables, etc. Les différents Grenelles. Quel est le bilan? Ça, c'est quand même un point qu'il faut absolument aborder. Quel est le bilan? Bon, évidemment, la réponse est dans la question, mais de Macron, hein, qui a quand même introduit en grande pompe Nicolas Hulot, ministre d'État, hein, quand même, donc vraiment un très haut placé. dont on connaît le pédigré. Moi, je me souviens quand j'étais gamin de Ushuaïa et puis Nicolas Hulot qui flottait au-dessus des airs avec son ULM, là, bon, c'est vrai que, et puis avec
Il a bien kiffé.
ses publicités, ouais, ses publicités de shampoing qui puent un petit peu d'ailleurs, très
Bien palpé.
industriel. Donc, il s'est retrouvé là en 2017. Quel est le bilan global? Et ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, mais comment est-ce que ça ne bouge pas plus? Alors, il y a eu les décrocheurs sur l'inaction climatique, il y a eu un certain nombre de choses, mais comment est-ce qu'on peut encore écouter, je sais pas, Marine Tondelier? Parce que comment ça se passe?
Bah, je pense que plus grand monde l'écoute vraiment aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs dimensions dans ta question. Il y a le bilan du
Ouais,
macronisme.
commençons par ça.
Bah, le bilan du macronisme, il est déplorable. Mais de toute façon, on le savait en arrivant. Le gars, voilà, c'est un banquier. Son seul projet politique, c'était d'améliorer le taux de profit en France, ce qu'il a plutôt réussi à faire, hein, quand on regarde l'indicateur des IDE, des investissements directs à l'étranger. Ben, ça afflue vers la France parce que le capital international considère que c'est un écosystème économique rentable pour lui. Donc ça, il a bien réussi là-dessus. Donc ça, là, le revers de cette politique, c'est, je reviens, c'est que toute forme de régulation des activités économiques pour essayer de limiter les dégradations environnementales d'une manière ou d'une autre se retrouve par conséquent blacklisté. Et donc le macronisme, ça a été une suite de greenwashing ou d'écologie du spectacle, parfois en collaboration, et c'est ça qui est dramatique et que j'explore aussi dans mon livre, avec les protagonistes de l'écologie mainstream. Alors, ça a été toute une suite d'événements avec des partenaires événementiels écolos. Il y a eu les États généraux de l'alimentation, il y a eu les One Planet Summit, il y a eu la Convention citoyenne pour le climat, il y a eu les conseils de défense écologique, j'en passais des meilleurs. Toutes les conclusions qui sont sorties de ces nacles-là ont été jetées à la poubelle. Et ça va même plus loin, c'est-à-dire que même des choses comme les rapports du Haut Conseil pour le climat, qui est un organisme qui est sous la tutelle du Premier ministre, tous ces rapports-là, c'est pareil, ils passent à la poubelle en permanence. Même le rapport Pisani, à un moment donné, il y a eu un rapport de Pisani-Ferry et de Mahfouz, qui sont quand même des économistes, qui étaient des économistes macronistes d'ailleurs au début. Donc il y a eu un rapport qui préconisait une fiscalité, de commencer à mettre en place les balbutiements d'une fiscalité verte et climatique pour les plus riches. C'est pareil, ça a été passé à l'as. Il y a eu le SGPE, donc le secrétaire général à la planification écologique, qui a été mis en place et qui a été placardisé par Gabriel Attal, puis François Bayrou. C'est-à-dire que même les initiatives gouvernementales, même qui ressort un peu du bloc bourgeois pour essayer de donner le change, même tout ça ne voit pas le jour et part en fumée immédiatement. C'est quand même pour montrer le niveau de fanatisme. En fait, là, à quel point l'écologie est insoluble complètement dans le capitalisme. Alors, je disais, avec collaboration des écologistes mainstream, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le WWF a travaillé au programme d'Emmanuel Macron, a fait campagne pour Emmanuel Macron et a ventilé ses cadres et ses dirigeants dans la Macronie. C'est ça qui s'est passé. Donc le WWF, qui est une des plus grandes ONG environnementales au monde et en France, où on a des gens, il y avait Diane Simiou par exemple, qui était conseillère à Matignon sous Édouard Philippe. Donc nous, on la rencontrait et elle a été censée elle nous menait en bateau, elle nous baladait, elle essayait de calmer un petit peu nos ardeurs et derrière, elle nous expliquait que les arbitrages étaient défavorables. On a Marine Bro, par exemple, qu'on a revue sur les plateaux à l'occasion de la canicule, qui était assistante de direction de Pascal Canfin à l'époque, je crois, et qui est devenue conseillère de Barbara Pompili au moment où elle a foutu à la trappe toutes les recommandations de la Convention citoyenne pour le climat, puis d'Elisabeth Borne, puis d'Emmanuel Macron himself. On a eu Pascal Canfin, qui dirigeait le WWF, qui ensuite est devenu l'homme de main et la tête de pont de Macron à Bruxelles, qui était en charge d'organiser un petit peu les positions françaises anticlimatiques au niveau européen. On a eu d'autres gens, on a eu Monique Barbu. Monique Barbu, voilà, qu'on a entendu pour la première fois, elle est quand même là depuis l'année dernière, hein, puis
Elle
elle
a
fait
fait une belle
Barbu.
sortie quand même, barbu, hein.
Elle a fait des sorties complètement nazes, on l'a entendu, je crois que c'était sa première interview radio, c'était sur France Inter.
On l'a dit, oui.
Elle a, par ailleurs, elle s'est illustrée avec des déplacements en avion parce qu'elle voulait pas prendre le train de peur d'être en retard. L'avion, c'est 50 fois plus émetteur de gaz à effet de serre que le train, je le rappelle en passant, pour les personnes qui nous écoutent. Bon, Monique Barbu, elle était présidente du WWF, quand même, hein, il y a quelques années de ça. Donc la Macronie, voilà, et un dernier point, c'est Bon, comment on pourrait qualifier ça? Bon, un macroniste, c'est un gars qui bossait avec Olivia Grégoire dans plusieurs ministères, puis au porte-parole du gouvernement, qui était recruté derrière par le WWF pour être responsable du plaidoyer. Donc il est là dans toutes les réunions interassociatives sur l'écologie pour donner les positionnements communs. Le gars a fait toute sa carrière dans la Macronie quand même. Donc il y a une interpénétration de ces deux milieux, et on a un bloc bourgeois qui est toujours en capacité en fait de s'acheter la caution environnementale et vaguement démocratique de la société civile dite organisée. Donc après, j'en viens pour faire suite à ta question, le bilan en quelque sorte de l'écologie dominante de cette dernière décennie,
Oui,
qui est
au-delà de Macron, au-delà de Macron,
là,
parce que
au-delà de
bon,
Macron.
Brice Lalonde, enfin, ça fait un moment quand même, tout ça, les Verts, c'est les années 70, quoi, le début.
80, ouais, plutôt
Ouais,
89.
80, début 80 en Allemagne, 82, un truc comme ça.
Voilà, 84 en France, je crois, c'est
84 en France,
bon.
ouais, 82, 84.
Et bah, l'écologie dominante, en fait, elle a organisé sa propre impuissance. Elle a troqué sa capacité d'action politique contre des postes honorifiques, contre des statuts sociaux et contre l'argent de la bourgeoisie qu'elle a intelligemment fait ruisseler sur les organisations non gouvernementales. Cette impuissance, elle est liée au fait que l'écologie dominante, elle a cru pouvoir pousser son agenda, en fait, en faisant de l'écologie une problématique strictement sectorielle et non pas systémique, en considérant qu'elle pouvait être supérieure au clivage politique et en particulier partisan, en considérant qu'elle pouvait rester étrangère à la lutte des classes et se désolidariser notamment du mouvement ouvrier, donc des masses
Est-ce que
laborieuses.
ça n'a pas toujours été? C'est un peu parce qu'au fond, Greenpeace, cette idée des héros de la cause écologique, il y avait quand même cette idée, tu les décris d'ailleurs avec beaucoup d'humour, hein, cette espèce d'archange éthéré comme ça, qui sauveur de la planète, c'est l'arche de Noé en
L'arche de
quelque sorte.
Noé, ouais, le
Est-ce
réseau
qu'au
d'arbres.
fond, ce n'est pas vicié déjà dans le projet de départ, quoi? Est-ce que.
Ah si si, bah, c'est une écologie dominante qui s'est... Bah, il y a quand même, à un moment donné, il y a deux formes d'écologie qui se faisaient face. Tu vois, il y avait une écologie un peu subversive en France, qui était une écologie d'occupation, l'écologie du Larzac ou l'écologie anti-nucléaire en Bretagne, par exemple. C'est quand même des militants qui plastiquaient des centrales nucléaires. Hein. Et après, il y a eu cette écologie beaucoup plus conciliante, beaucoup plus pacifiste, qui s'est institutionnalisée par le biais des ONG, puis par le biais des partis politiques, où les militants sont devenus des professionnels de la cause, puis des experts, puis des technocrates, puis des cadres, des directeurs. Ils ont fini par s'intégrer complètement à la classe dominante, et qui ont proposé une écologie qui était vaguement social-démocrate, avec l'idée, d'une part, on pouvait régler le problème en multipliant les petites prises d'avantage au sein du système capitaliste, hein, obtenir quelques petites réformes paramétriques, ou en favorisant l'autorégulation quand même. Enfin, je veux dire, il y a quand même une idéologie de cette écologie à un moment donné, c'était de favoriser le marché et de considérer que les multinationales, si on déterrait des scandales, était en capacité de s'auto-organiser et qu'on allait faire des labels et des certifications, puisque t'en parlais tout à l'heure, qui permettraient aux consommateurs, grosso modo, de s'y retrouver et qui permettraient d'exercer une pression suffisante sur les pratiques commerciales et industrielles des multinationales pour les faire rentrer dans le rang, ce qui était une hérésie totale, ce qui a d'ailleurs permis de transférer le pouvoir normatif des mains de l'État aux mains du marché à lui-même, qui devenait en capacité de fixer en quelque sorte le référentiel. Donc les ONG, elles ont organisé, si tu veux, une sorte de capitalisme à visage humain, ou en tout cas à visage environnemental, ce qui était une contradiction dans les termes, ce qui était contre-productif et qui nous a fait perdre évidemment un temps infini. Donc, ça, d'une part, l'écologie de marché, et d'autre part, en termes de praxis, de pratiques militantes politiques, ils ont été, c'est pas que les ONG, hein, c'est des gens comme les Colibris, ou c'est des gens comme un peu Cyril Dion, ce genre de personnel-là, la bourgeoisie culturelle, ils ont cru que faire de la sensibilisation, ce que j'appelle la doxa sensibiliste, allait comme par enchantement introduire du changement social et politique avec l'idée qu'il suffisait de multiplier un peu les énoncés écolos en circulation, de produire des images, hein, de produire des images plus ou moins spectaculaires ou de parler des solutions ou multiplier les micro-récits comme ça, et que ça allait suffire comme ça à engendrer des révolutions politiques ou des transformations sociales d'ampleur. Ce qui est en philosophie une approche idéaliste, c'est pas du tout matérialiste, et ce qui n'a pas marché. Et en fait, la sensibilisation, quand ça devient une fin en soi, elle s'oppose strictement à l'impératif de politisation. Pourquoi? Parce que dès qu'on veut sensibiliser, de fait, on est amené à expurger, à extirper le clivage politique, la contradiction, la controverse, les antagonismes,
L'affrontement,
l'affrontement, les antagonismes de classe. Donc la structure même du capitalisme, c'est-à-dire les causes en fait essentielles du réchauffement climatique, et donc à se désarmer symboliquement et politiquement petit à petit. La sensibilisation, c'est pratique parce qu'on va aller sensibiliser les ministères au lieu de les confronter, parce que si on commence à confronter les ministères, ben, on perd nos accès à l'État. On va aller sensibiliser les chefs d'entreprise, on va aller se faire mousser dans les cénacles autour des petits fours et des buffets bien garnis. On va sensibiliser, je sais pas, la bourgeoisie culturelle. On va sensibiliser les classes populaires, c'est-à-dire un peu les pédagogiser, les éduquer, les rééduquer, en
Oui,
quelque
ça c'est le
sorte.
travail de l'école, c'est le travail de cette écologie d'agrément.
Voilà. Et donc la sensibilisation, ça, comment dire, ça déploie une sorte d'écologie d'atmosphère qui n'a aucune, strictement aucune prise en fait sur les rapports de force sociaux et politiques. Et c'est de ça dont il faut sortir aussi. Hein.
Mais on a beaucoup parlé de greenwashing à une époque, j'ai l'impression qu'on en parle un peu moins. C'est comme si en fait ils s'en dispensaient un petit peu aujourd'hui, c'est plus brutal. Et ils parlent, qu'est-ce que tu en penses d'éco-terrorisme, enfin, on est tout de suite criminalisé. Moi, je me souviens avoir manifesté contre l'A69. Hein, on était à Saïs et dans le Tarn. Bon, pour ce qui pour moi est une hérésie. Hein, j'ai quelques amis qui défendent encore vaguement ce projet, mais enfin, ça ne va pas durer bien longtemps. C'est une aberration absolue. Il y a eu quand même des blocages juridiques. L'État est passé en force. Enfin, bon. Et puis, il faut connaître la situation locale. C'est un non-sens. Hein, il faut savoir que sur le débit de voiture, c'est un non-sens. Hein, c'était 6 000 voitures l'heure. Enfin, c'est effrayant, quoi. Et un bétonnage absolument délirant pour un truc qui sera d'ailleurs jamais rentable et qui va finir par être payé par le contribuable. Je rappelle même, d'ailleurs, on l'avait dit à l'époque, hein, que des tronçons entiers ont été privatisés, tronçons entiers qui étaient déjà payés sur fonds publics, hein,
Bien
à
sûr.
hauteur de 75 millions d'euros. C'est quand même incroyable. Et en plus, comme il y a eu des retards de travaux, il faut encore payer la 69. Sauf qu'à l'époque, on a été accusé d'être des éco-terroristes. Darmanin l'a dit. Darmanin a dit éco-terroriste. Donc c'est un peu à double vitesse. D'un côté, on a la sensibilité, et de l'autre côté, on est un peu criminalisé si on fait des actions, quoi.
Ouais, sur le greenwashing, t'as complètement raison, et ça recoupe un peu ce thème du backlash écologique là dont on a beaucoup parlé. Pour moi, c'est juste le fait que la bourgeoisie fanatisée, grosso modo, a plus tellement besoin de donner le change et elle est plus vraiment en capacité de le faire. D'une part, parce que les répercussions concrètes du ravage climatique deviennent incontournables. Et donc, on s'aperçoit très bien qu'il y a un hiatus entre les conséquences réelles du réchauffement climatique, la trajectoire du réchauffement climatique, disons, et la trajectoire des acteurs économiques, et qu'on voit très bien que les petits labels et tout ça ne porte pas leurs fruits. Je veux dire, tu peux pas, à un moment donné, dire que tout le monde est vertueux écologiquement. Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises, elles se prétendent vertueuses sur le plan climatique. Elles ont toutes des petits plans, des petits inventaires, de la communication sur le sujet, et pour autant, il n'y a pas de réduction d'émissions de gaz à effet de serre significative en France. Hein. On a plutôt tendance à stagner. Donc le greenwashing, on voit bien qu'à un moment donné, il peut tromper son monde, mais que ça a quand même des limites. C'est-à-dire que la réalité tangible et concrète finit quand même par rattraper le truc. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est que je pense qu'ils se sont aperçus que toute cette écologie dominante des ONG ou des starlets et des célébrités, en fait, était complètement inoffensive. Et ils s'en sont rendus compte, je pense, en 2022, au moment de la réélection d'Emmanuel Macron. Parce que c'est quand même tout un secteur qui a passé son temps. Moi, j'étais payé, je veux dire, pour scanner au jour le jour les régressions environnementales, les promesses trahies, pour instruire le procès climatique d'Emmanuel Macron. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2022? On m'a demandé de la mettre en sourdine. Et donc, je veux dire, toutes les ONG, Tous les pétitionnaires de l'affaire du siècle, c'était 2,5 millions de personnes, ont été remisés au grenier. Les belles alliances syndicales ont été suspendues. Moi, les ONG, on m'a dit que. Moi-même, je me posais la question, mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord là que pendant sur les 6 prochains mois, disons, on va essayer d'œuvrer à l'élection d'un candidat qui a un programme écologique sérieux. Mais même ça, on disait non, c'est trop politique, c'est trop engagé. Voilà, donc la classe dominante a montré en fait que ce secteur-là était strictement inoffensif. Il a contribué assez largement à la réélection, à mon sens, d'Emmanuel Macron. Mélenchon, il n'y a pas besoin d'être mélenchoniste pour voir que c'était à un moment donné le vote utile si on voulait derrière déverrouiller un petit peu les options écologiques, qui passe à 400 000 voix près. Bon, et on se retrouve avec Macron qui a plus d'élection derrière, donc il n'y a plus de redevabilité politique. Donc il fait ce qu'il veut, il mène une politique de classe qui est d'autant plus violente, il respecte même plus le résultat des élections qu'il convoque que lui-même. Et donc là, ce qui se passe, c'est que il n'y a plus de greenwashing, mais à la place, évidemment, il y a une répression complètement assumée, militarisée, qui est même dénoncée aujourd'hui par le rapporteur de l'ONU, qu'on a vu se déployer à Sainte-Soline, mais aussi sur la 69, qui est complètement disproportionnée et qui pose un problème stratégique au mouvement écolo. C'est le problème de l'État. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que vraiment on est en capacité de résister à l'État bourgeois ou est-ce qu'à un moment donné il faut réussir à s'accaparer les leviers, notamment les leviers régaliens de l'État? Parce que je veux dire, les forces de l'ordre qui déferlent sur les manifestants avec les consignes de les tabasser et de les terroriser, elles tombent pas du ciel. C'est Place Beauvau qui les donne. Donc à un moment donné, est-ce qu'on a des forces progressistes au ministère de l'Intérieur ou pas? Ça compte en fait dans la manière dont ça s'articule derrière la lutte des classes et derrière la lutte environnementale sur le terrain. Donc voilà. Parce que ce qui s'est quand même passé, c'est qu'il y a eu une écologie plus radicale que moi je défends, qui est celle des soulèvements de la terre, qui pose le curseur, à mon avis, au bon endroit en termes de confrontation et de conflictualité. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a un mouvement bon, qui peine un peu à trouver un second souffle. Pourquoi? Parce que la répression a été terrible et a pesé lourdement sur les corps, sur les existences.
Ah oui, non, ils n'ont pas d'état d'âme. Ah, du côté de Castres, quand il y a eu des réunions, il y avait d'ailleurs les soulèvements, il y avait eu des conférenciers du GIEC, enfin, il y a eu beaucoup de choses, hein. Il y avait des familles, ils ont arrosé avec des lacrymos, etc. Enfin, il faut le voir. Je pense, le problème, c'est que, évidemment, les gens qui ne participent pas ou de très très loin et qui ne sont pas sur le terrain et qui ne voient pas la brutalité, en fait, il y a pas de limite, quoi. Tout ça pour faire une autoroute, je le répète, qui va être un gouffre, en fait. On a eu dans le Tarn le trou de Carmaux, mais on va voir la 69, c'est une balafre, absolument. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est intéressant parce que ça pose, il me semble, le problème, si tu veux, de l'aménagement du territoire. Parce que sur la 69, en fait, quand on regarde bien le détail de l'affaire, c'est qu'au départ, évidemment, il y avait cette frustration de Castres au sud du Tarn de ne pas avoir l'autoroute. Et que Albi avait l'autoroute, parce que ça passait tout au nord du Tarn. Mais en fait, c'est un combat avec Rodez et Albi qui voulaient leur autoroute, mais tout au nord du Tarn. Et en fait, il n'y a eu aucun arbitrage pour dire, mais on peut couper la poire en deux, on peut faire un truc au milieu, à la limite. Enfin, il n'y a rien qui est planifié, quoi. Il n'y a aucune réflexion. Enfin, c'est chacun tire la couverture à soi. Nous, on veut notre autoroute. Pierre Fabre, il veut l'autoroute, etc. Enfin, il voulait, parce qu'il n'est plus là. Il faut l'autoroute. Mais il n'y a aucune. C'est ça, moi, c'est ça qui me terrifie, quoi. Il n'y a aucune vision à long terme. Et encore, long terme, c'est quoi? C'est 10, 20 ans. C'est rien, hein, c'est rien, 20 ans. Mais il n'y a aucune vision de tout ça. Et ça, comment? Enfin, comment ça peut passer dans l'opinion publique? J'ai du mal à comprendre ça, quoi. Comment c'est possible, en fait?
Bah, je crois qu'il y avait des sondages locaux qui montraient quand même qu'il y avait une majorité des gens sur le territoire qui étaient plutôt opposés, in fine, au projet. Mais après, ce que tu décris, c'est effectivement la capture de la décision politique et du coup de la faculté d'aménagement du territoire par le capital. Parce qu'à la base, c'était Pierre Fabre qui voulait une autoroute pour faire circuler plus rapidement
Oui,
ses
mais moi,
camions,
enfin, j'ai
ses
toujours entendu
câbles.
parler de cette autoroute, j'avais 10 ans, donc c'est un
Des
truc, c'est marrant.
cadres et tout. Derrière, il y a des intérêts lucratifs avec NGE et des gens, voilà, des entreprises privées qui aménagent le territoire. Mais en fait, tous ces secteurs-là, il faut les socialiser. Et on aura plus ce problème-là. C'est-à-dire, si on veut planifier écologiquement l'aménagement du territoire, il faut une socialisation généralisée de l'économie. Il faut extraire les intérêts lucratifs des grandes décisions politiques, y compris sur l'aménagement du territoire. En fait, on ne veut pas laisser au marché La terre, le territoire, nos écosystèmes, la biosphère. Il faut arrêter avec ça. L'A69, c'est l'exemple typique de ça. Là, on a l'État qui continue à soutenir ça, qui pleure sur la canicule et continue à soutenir une bétonisation drastique et délirante qui n'a en plus aucune rationalité sur le plan des usages et des pratiques, comme
Aucune.
tu viens de le dire. Voilà.
Non, mais aucune. On peut justifier l'injustifiable. Hein. Moi, je veux bien qu'on justifie l'injustifiable. Mais non, non, non. C'est totalement délirant. Tu as raison, c'est un accaparement. Et c'est la décision politique, en fait, nous est volée. C'est-à-dire qu'on est dépossédé de quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui est assez effrayant, quoi. En fait, c'est. Alors, le point, c'est qu'on entend beaucoup parler dans les think tanks de plutôt proches, on va dire, du j'ose à peine dire le parti socialiste, enfin, moi, ce qui reste de cette gauche raisonnable de gouvernement, hein, du care, du soin, prendre soin, du commun, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Sauf que, tu le dis, et je crois que là-dessus, c'est imparable, sans conflictualité, je vois pas très bien où ça va aller, en fait. On va retomber sur du cosmétique, du prendre soin du commun, enfin, tout ça, c'est très joli sur le papier, moi, je signe, hein. Sauf que, dans le vrai monde, dans la vraie réalité conflictuelle face justement à cette puissance de production qui est l'organisation du monde capitalistique, enfin, il faut le dire telle qu'elle est. Et ça, c'est zéro, ça pèse zéro.
Bien sûr, mais il y a des intérêts qui sont de plus en plus différenciés et donc par conséquent de plus en plus antagonistes. Hein. C'est ça la réalité de la société capitaliste. Donc si on veut métaboliser politiquement l'ordre social, il faut passer par le clivage et la conflictualité, ça c'est sûr. Tu as de la chance d'entendre encore le Parti Socialiste parce que moi j'entends plus grand-chose qui vient
Il y a des petites antennes locales qui sont pas,
de
c'est pas
ces
le Parti
souffleurs-là.
Socialiste, mais ils essaient un petit peu de
Ouais.
enfin, cela dit, ils sont quand même très, enfin, ils sont sur des positions de clivage, hein, de toute façon, voilà,
Non, non, mais ce que tu
ils ont
pointes, par contre, c'est l'inanité du dialogue environnemental qui est assez symétrique à l'inanité du dialogue social ces dernières années. On voit bien que pour moi, les grandes directions syndicales, même y compris au sein de la CGT, en fait, ce dialogue social débouche sur rien. On voit bien, ils sont sur des forces politiques qui sont par ailleurs devenues incapables d'organiser une grève générale, ce qui était quand même pourtant le cœur de la charte d'Amiens qu'on brandit tous les jours pour justifier la dépolitisation des syndicats. Et bah, c'est la même chose avec le dialogue environnemental. Hein. On a des ONG, du personnel professionnalisé qui circulent dans les espaces sociologiques de la classe dirigeante, qui finissent par abandonner leurs convictions, à qui on donne des capitaux relationnels, économiques assez élevés, et auxquels on apprend à rester discipliné, courtois. Conciliant, en fait, c'est une classe sociale, c'est un secteur social en tout cas, c'est un groupe social qui noue des dépendances extrêmement fortes avec ses propres cibles, et donc qui n'est plus en capacité, en réalité, d'organiser cette confrontation et cette conflictualité. Là. Et donc aujourd'hui, bah, vu la situation politique et vu la circonstance, en vrai, ces ONG, je pense qu'elles feraient mieux de se dissoudre et de repartir militer à la base. Au bas de l'échelle, de manière bénévole, dans les partis politiques pertinents, et voilà,
Alors
d'arrêter cette approche bureaucratique et par le haut, par la discussion avec les élites, parce qu'en fait, elles se sont fait absorber aujourd'hui, désarmées, et donc elles sont incapables de porter leur cause au bon niveau de conflictualité. Et c'est la même chose dans cet espace politique SOSDEM, avec les Verts, le PS et tous ces gens-là, parce que derrière, en fait, ce qu'ils veulent, si on regarde, là, si on réatterrit un peu sur la conjoncture politique et notamment la période électorale, eux, ce qu'ils veulent derrière, et ils l'ont déjà montré, c'est déjà le cas au moment du sketch du NFP, là, et des trucs à ce moment-là où Tondelier allait parader à l'Élysée, elle pensait qu'elle allait réussir à tendre le bras de Macron en se montrant dans son bureau, toutes ces conneries. C'est que eux, ils visent au final la négociation.
Tondelier, on a eu la Cégette aussi, hein. On a eu quand
Oui.
même, ils y sont tous passés, c'est
Voilà,
terrible.
comme ce sont des partis qui ont une base sociale qui est extrêmement faible aujourd'hui. Leur base sociale, c'est les gens de gauche qui ont des intérêts de droite. Mais ces gens-là, in fine, ils finissent par surtout voter pour le bloc bourgeois. Donc ils ont une base sociale qui est extrêmement faible, une base militante qui est indigente en réalité. On parle d'appareils qui ont plus de force militante, qui ont encore des petites prébendes pour le Parti Socialiste au niveau local, donc des baronnies, des réseaux.
Des élus, oui.
Des élus de ce côté-là. Mais eux, ce qu'ils visent, c'est Bon, outre l'exposition et les gains économiques que peuvent procurer une campagne présidentielle, c'est que l'AFI perde pour derrière négocier avec le centre bourgeois des postes, des gouvernements d'ouverture, cette espèce d'unité nationale que défend des gens comme Cécile Duflot ou Yannick Jadot qui voulait gouverner avec Attal et Édouard Philippe au moment du. Au moment du NFP dans la suite des législatives anticipées, tout ça. Donc il y a cette tentation-là, en fait, au sein de la gauche bourgeoise. Et c'est quand même ça qu'il faut analyser avec lucidité aujourd'hui.
Alors, j'ai quelques questions, hein, je les ai pas. Voilà, on en a noté quelques-unes. Alors, la dernière, je vais qui fait suite à ce que tu es en train de dire, mais je vais remonter un peu le fil. Par rapport à l'observation de la chaleur, on va revenir un peu sur ces questions. On voit une carte, c'est Dominique, on voit une carte avec des pics sur Paris et Londres. Comment c'est possible? Donc, avec vraiment des pics de chaleur ultra localisés. Est-ce que c'est lié en fait à la bétonisation? Est-ce qu'au rayonnement du sol, à la clim? Je ne sais rien. Et quels sont les écarts? Est-ce que c'est bien mesuré? Parce que souvent, on a eu un chiffre controversé d'ailleurs sur l'usage de la clim, puisque la clim rejette de l'air chaud quand même dehors, hein, faut quand même pas l'oublier. Bon, alors c'est négligeable du point de vue peut-être du réchauffement climatique, bon, bon, oui, mais sauf que bah, c'est peut-être pas négligeable dans une ville. Donc est-ce que ça, il y a des mesures précises par rapport à ça? Donc ça complète un peu la question de Dominique. Et une question de Lucie, deuxième question. Combien de morts finalement pour cette phase de canicule? Alors là, c'est un peu de la prédiction morbide, mais je crois que les chiffres sont difficiles à obtenir. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit, le saura-t-on un jour? Voilà, donc deux questions. Une question sur les pics de chaleur et la clim, et une autre question sur les.
Ah ouais, les pics de chaleur, c'est pas du tout étonnant parce que les villes qui sont, les zones, je veux dire, qui sont imperméabilisées, qui sont pas végétalisées, qui sont bétonisées, sont beaucoup plus exposées à la chaleur. En fait, les quartiers qui sont très minéraux renvoient davantage de chaleur. Les quartiers végétalisés permettent au contraire d'absorber la chaleur. Donc, les villes densément peuplées, densément bâties, évidemment, elles sont les plus exposées aux canicules et aux fortes chaleurs. D'ailleurs, je crois que Paris, c'est une des villes les plus exposées au niveau mondial. Se rajoute derrière le fait que c'est là où on trouve le plus de climatisation. Or, la climatisation, ça consiste à rejeter à l'extérieur le surplus de chaleur, hein. Donc c'est un exemple de maladaptation, et ça, il y a des mesures qui montrent que ça peut faire grimper le thermomètre jusqu'à plus de 2 degrés dans les rues des logements adjacents aux logements climatisés. Donc ça a un vrai impact, et donc c'est tout à fait logique sur le plan physique que les villes qu'on ait des relevés supérieurs dans les villes que dans les grandes villes que sur les petites communes ou sur les zones rurales. Par ailleurs, la climatisation, ça n'a pas zéro impact sur le réchauffement climatique, hein. C'est déjà 7% du réchauffement climatique,
Et ça,
notamment.
c'est mesuré, ça, c'est évalué. Il y a, comment ça
Ça,
c'est.
c'est évolué. Et notamment, la climatisation, ça a un impact, enfin, ça a une empreinte énergétique qui est extrêmement élevée. Alors, en France, moyennement, parce qu'on a des sources principales d'électricité qui sont plutôt décarbonées avec le nucléaire, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Donc l'énergie qui sert à climatiser, c'est bien souvent des énergies fossiles encore, et donc qui rejettent des émissions de gaz à effet de serre. Et par ailleurs, la clim, bon, c'est plein de gaz fluorigènes qui sont gavés de PFAS, hein, qui sont très polluants, etc. Donc qui ont des inconvénients environnementaux réels, tangibles. Et donc faut pas tomber dans la grande démagogie de on va tout climatiser, ça n'a.
Ouais. J'ajoute que tu n'es pas contre la climatisation, hein. C'est pas la question, hein. C'est un sujet. En fait, on peut observer la réalité et les effets de réel sans avoir des positions pour ou contre la clim. Bon,
Ouais, non, mais moi
je
sur
serais
la
content que
clim,
ma mère qui est dans un EHPAD ait la climatisation. Hein. Sinon.
ouais, moi je pense qu'il faut climatiser en priorité les espaces collectifs, et notamment vitaux, les écoles, les lycées, les universités, les EHPAD évidemment, et les hôpitaux. Et après, aller vers un usage individuel extrêmement régulé et encadré de la climatisation, et nationaliser l'ensemble du secteur, encore une fois, pour éviter qu'on ait des acteurs économiques surpuissants qui aient intérêt aux canicules et qui se développent et qui capturent la décision politique.
Ouais, bien sûr, ça c'est évident. Une question de Anne face à cette brutalité, quelles sont les solutions? Donc on va peut-être avancer par rapport à ça. C'est vrai que quand on lit ton livre que je conseille, hein, je le rappellerai tout à l'heure, le titre du livre, Pourquoi l'écologie perd toujours, on a cette idée quand même un peu, et c'est beaucoup ces sujets-là, c'est un peu désespérant. Hein, c'est-à-dire c'est désespérant. Au sens où on se dit, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup fait. Alors, c'est toujours bien, moi je crois, d'ailleurs tu cites Nietzsche, tu cites même Debord, je crois que c'est très bien de dégager le faux. On gagne toujours quelque chose. Adorno disait, c'est très bon d'ouvrir les fenêtres. Voilà, hein, par rapport à la critique, tu dis, oui, mais la critique n'est pas constructive. Ouais, mais quand ça pue, c'est bien quand même d'aérer un petit peu. Hein,
Je
voilà.
trouve que ça fait du bien, ouais, voilà.
Voilà, ça fait du bien. Maintenant, une fois qu'on sort de là, les leviers d'action et comment ça peut se traduire justement dans le champ politique sans que ce soit punitif. On a vu, et d'ailleurs, j'aimerais aussi que tu me donnes ton avis là-dessus sur les ZFE, qui est un sujet d'une injustice sociale terrifiante en fait. Hein, on exclut les pauvres des centres-villes. Bon, ils marchent sur des œufs quand même avec tout ça. Donc voilà, quels sont les leviers et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui n'est pas, et comment tenir un discours qui soit un peu crédible sur ce sujet, quoi.
Bah, on entre quand même dans une période historique compliquée, donc le premier réflexe, c'est au niveau micro, disons, et individuel de créer des réseaux de résistance et de solidarité. Enfin, va falloir aller davantage vers les autres, se parler, sociabiliser, créer des espaces de sociabilité et des espaces de pratique commune à l'échelle d'un quartier, d'une commune, d'un milieu de vie. Ça, évidemment, il faut aller par là. Il faut s'engager dans la lutte, y compris au niveau local. C'est-à-dire qu'il y a quand même une blitzkrieg qui est menée par le capital à coup de grands projets inutiles, tels que la 69 partout. Mais en fait, on a tous un grand projet inutile, grosso modo. On a tous une petite ZAD, en fait, près de chez nous. Et donc ça, il faut s'organiser en association, en collectif. Souvent, c'est des batailles qui sont remportées, hein, qui sont pas thématisées médiatiquement. Mais moi, j'ai plein d'exemples autour de moi de luttes qui sont victorieuses. Après, je pense que ça ne suffira pas et qu'il faut encore une fois s'emparer de l'État. Alors, il y a plusieurs voies pour le faire. Il y a la voie insurrectionnelle, mais bon, c'est difficile à prédire et à organiser concrètement. Ou il y a la voie plus institutionnelle qui est la voie électorale. Et là, on rentre dans une période électorale qui est celle de la présidentielle, qui est surdéterminante compte tenu de l'état du régime politique français actuellement. Et donc, je recommande de grouper son énergie aujourd'hui au service plutôt de la France insoumise, qui m'apparaît à
C'est
peu
ta
près
position.
le seul espoir qu'une gauche de rupture, qui ouvre encore une fois les options écologiques derrière, parvienne au pouvoir. Je ne dis pas que c'est
Et
probable,
qu'est-ce
mais
que alors qu'est-ce que tu
je
répondrais?
pense qu'il y a une petite voie quand même disponible.
Et qu'est-ce que tu répondrais justement à ceux qui vont te dire oui, mais de toute façon, la France dans cette histoire-là a un impact entre guillemets qui est minime et on n'a pas les leviers véritablement et la concurrence et la Chine et ceux qui développent l'IA à toute berzingue du point de vue des Chinois et des Américains. Comment en fait arriver à s'inscrire dans cette réalité de la guerre économique globale en fait? C'est ça la question. Il y a beaucoup de
Bah,
gens qui.
déjà, il faut bien commencer quelque part, sinon c'est sûr qu'on n'arrive jamais nulle part. Par ailleurs, derrière, il y a des leviers disponibles sur le plan diplomatique. Genre, la France, c'est un pays puissant quand même, hein. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, on a une gauche de rupture qui prend le pouvoir au sein des pays dits développés. La France, c'est quoi? C'est top 6, top 7 en termes de puissance économique aujourd'hui, 5, 6, 7, je ne sais plus. C'est un grand pays qui a du pouvoir politique, qui a du pouvoir, qui a de l'influence diplomatique, qui a des pouvoirs et des leviers économiques. Derrière, il y a des alliances qui sont tout à fait possibles, et des choses intéressantes qui se passent avec l'Espagne, par exemple, sur pas mal de sujets, y compris sur la question climatique. Derrière, ça permet de rebattre le jeu de cartes européen, hein, et de bordéliser les institutions européennes qui, pour l'instant, sont un verrou du néolibéralisme. Sur les pays comme la France. Qu'en fait, ça donne des leviers d'action et des leviers d'action politiques qui sont quand même nombreux et dans tous les cas non négligeables.
Et alors sur les points d'éléments, on va dire plus propositionnels, hein, j'ai vu que tu avais un peu parlé du congé climatique. Enfin bon, alors avec la comparaison avec l'Espagne, même si c'est pas, j'ai regardé un petit peu, c'est pas évident parce qu'en Espagne, je crois pas que ce soit sur la chaleur véritablement, la canicule, c'est les intempéries, enfin tout ça, comment dire, est pas très clair en tout cas sur la comparaison. mais quelles seraient justement des propositions un peu voilà, concrètes qu'il faudrait porter politiquement, enfin,
Sur les canicules en tant que telles. Bah,
Oui,
y a
par
mesures
exemple, pour
palliatives, ouais.
pas les ZFE, parce que le problème des ZFE,
Non.
c'est que là, on va, en fait, c'est très difficile. On est vraiment, c'est une ligne de sorcière, hein, disait Deleuze. C'est-à-dire qu'on est entre d'un côté, on doit agir, en fait. Il faut agir. Et à la fois, il faut agir, mais sans punir. Parce qu'en fait, ça va être ça, la logique Eltelli. Ça va être de dire, on va punir ceux qui subissent déjà les outrages, en fait, et ceux qui sont les plus pauvres. Moi, les ZFE, j'étais franchement opposé aux ZFE. Pour moi, c'est une horreur, quoi. C'est une horreur absolue, quoi. Et d'ailleurs, les zones périurbaines, on le voit en Gironde, on a des écarts de salaire et des écarts de richesse entre Bordeaux et le reste. Ça a été très violent avec les Gilets jaunes, d'ailleurs, pour cette raison, hein. Mais c'est explosif, enfin, c'est
Non,
absolument.
mais je suis d'accord, hein, je suis d'accord. Les ZFE, pour moi, c'est encore une fois un des avatars, ou en tout cas le répertoire de réformes issues de l'écologie bourgeoise, qui rentre dans ce que j'appelais dans d'autres articles l'écologie métropolitaine, qui encore une fois fait le jeu des élites de centre-ville et qui crée de la ségrégation sociale et de la gentrification, en fait. Et les ZFE, elles participent de cette gentrification au nom de l'écologie des centres-villes et donc de l'évincement progressif des couches populaires. Après, les mesures palliatives sur les canicules en tant que telles, c'est d'abord de nouveaux droits sociaux. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut déterminer des seuils au-delà duquel, bah, dans certains métiers, on ne peut plus travailler. Hein, c'est un autre aspect du darwinisme social en cours. C'est-à-dire que le hiatus, en fait, entre les métiers intellectuels ou les métiers d'encadrement et les métiers qui sont exposés physiquement ou qui sont subalternes, dans lesquels il y a peu d'autonomie vis-à-vis de rapports de production, ce hiatus-là, il est en train d'exploser, en fait, à la faveur de la canicule. Et donc, à un moment donné, il faut réussir à garantir des conditions de travail décentes. Et donc, ça veut dire rogner sur la productivité et la compétitivité. Et donc, ça veut dire qu'à partir de certains seuils, on déclare que certaines tâches, on ne peut plus les réaliser. Et donc, on a un droit de retrait effectif qui se déclenche automatiquement dans certaines filières. Je pense qu'il faut aussi on l'a vu, hein, il y a plein de parents qui étaient complètement paniqués parce qu'ils étaient obligés de récupérer leurs gosses parce que les écoles pouvaient plus fonctionner. Bon, il faut un congé parental aussi quand les écoles ferment. Ça c'est l'évidence même. Donc il y a tout un tas de mesures sociales à mettre en place. Après la je veux dire la, bon sur l'adaptation, il y a tout un des grandes politiques d'investissement, de réaménagement du territoire, sur le bâti, sur les infrastructures de transport, sur l'agriculture, sur la protection du trait de côte et la relocalisation des habitats condamnés. Enfin, dire ça, c'est des milliards et des milliards à investir. Et après, il faut endiguer concrètement le réchauffement climatique lui-même, donc réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Et ça veut dire à un moment donné s'en prendre assez frontalement au capital. C'est des industries qui doivent disparaître. Les industries surnuméraires, les industries du luxe, les industries des jets privés, les yachts, enfin, il y a plein d'usages de consommation à un moment donné. Il faut les démanteler. Et donc ça passe par des socialisations massives de pans entiers de l'économie. Ça passe, je pense, par une fiscalité confiscatoire sur le capital et sur les patrimoines, parce qu'il y a des investissements majeurs à effectuer et qu'on va pas les, on va pas les, on va pas les Les déployer dans un contexte de contraintes budgétaires, donc ça veut dire aussi retrouver une souveraineté sur la dette, donc une autonomie monétaire. Donc voilà, c'est un enjeu en fait qui est systémique et à mon avis, il faut arrêter de le prendre par la petite lorgnette des mesures un peu sectorielles ou paramétriques sur ci ou ça. En fait, c'est un rapport social de classe contre la classe capitaliste, justement.
Je pense que beaucoup de gens ont du mal à penser le niveau de conflictualité qu'il faudrait, mais le niveau de conflictualité qui arrivera. Parce que le problème, c'est qu'avec les transformations qu'on est en train de vivre, l'accumulation de yachts dans des ports français, ça va être compliqué, quoi.
Ouais.
Je pense que là, ça, on va arriver au, ouais, on va arriver à l'état de, comment
D'accord.
dire, d'intolérance radicale et collective. J'ai une question dans le même sens, hein, de Druide. Alors, il porte bien son pseudo, hein. Mon frère vit dans une maison avec des murs en torchis, où la température est maintenue à 24 degrés sans climatisation. N'y a-t-il pas un problème dans les techniques de construction? Alors on sait qu'on construit vite, on construit. Bon, est-ce que voilà, est-ce que là il n'y a pas aussi tout un travail? Tu décrivais donc que Macron a supprimé donc une agence. Non, c'était pas une agence, c'est
Un opérateur, ouais, une
un
petite agence
opérateur,
publique qui travaillait
un
sur ce
levier
sujet.
public de réflexion autour de ça. Ouais.
Ouais.
Sur le bâti, il y a aujourd'hui quand même des choses sérieuses qui sont pensées par rapport à ça, parce que
Bien sûr.
moi
Mais
je.
bien sûr, des choses, mais même il y a des choses ancestrales. À une certaine époque, on construisait des logements qui étaient résilients enfin, par rapport aux températures. Aujourd'hui, on construit encore des choses, des bâtiments sans volets, des grandes baies vitrées plein sud ultra exposées. Enfin, il y a plein de choses aberrantes qui se font. Donc, à un moment donné, il y a un travail normatif sur la construction à effectuer et poser des contraintes nettement plus drastiques pour que les logements soient adaptés au réchauffement climatique. Il y a des techniques écologiques comme le torchis, évidemment, qui permettent,
Ce
qui
qui
sont
rejoint la question
un
d'Olivier d'ailleurs.
générateur de co-bénéfices
Oui, ouais.
voilà, manifestes.
Ouais. Comment aménager les villes pour échapper à la mort clinique? Bon, ben c'est parce que en
Bah,
fait,
faut
c'est.
débétonner, faut végétaliser, faut rénover, le bâti. Il faut sortir des logiques de métropolisation où en fait on a une concentration, une accentuation pardon, des flux de matière, où il y a de la ségrégation et du séparatisme social à l'œuvre. Donc il faut arrêter avec les logiques de métropolisation, en fait, d'événementialisation de la ville, de néolibéralisation de la ville. Pourquoi pas peindre les toits en blanc? Par exemple, j'ai vu un truc qui était intéressant, c'était des simulations où un gars avait repensé Paris avec les toits peints en blanc. Et évidemment, ça a un impact, bon, qui est pas majeur, mais qui est non négligeable précisément pour les gens qui vivent sous les toits.
Pas avec du blanc de Meudon, alors
C'était pas du blanc de Meudon, là, pour le coup. C'est de la
ça
vraie
fait beaucoup
peinture.
rire, ça quand même. Ça, c'est vraiment les petits gestes de Dame Tartine. Je sais pas,
Bah ouais, mais bon, en fait, c'est la débrouille qui montre
c'est la
l'imprévisibilité
débrouille. Voilà, c'est ça, c'est la débrouille.
collective.
Hein.
Les gens, quand on se retrouve avec des salles de classe ou des hôpitaux avec des couvertures de survie sur les
C'est
fenêtres,
sûr, ouais.
les architectes n'ont pas prévu de voler et n'ont pas anticipé les effets du réchauffement climatique, c'est quand même grotesque. Mais bon, on en est là, ouais.
Ouais, on en est là. Moi, j'ai collé un espèce de film sur ma vitre. Je
Ouais.
sais pas trop ce que ça vaut. On est plus dans la magie noire, à mon avis. J'ai pas l'impression. Ça m'a pas paru vraiment concluant. Il y a des gens qui ont mis carrément des couvertures de survie en faisant. Là, c'est très mauvais parce que ça confine. Alors là, la chaleur ne sort plus du tout. Non, c'est évidemment très 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 inquiétant.
Et puis après, il faut développer les réseaux de fraîcheur urbain, hein. Ça existe aussi, donc il y a ces solutions palliatives là, quoi.
Est-ce que ce sera une des dernières questions? Est-ce que tu penses que au fond, sincèrement, hein, on va avoir un combat politique à mener. Est-ce que tu penses que ces questions-là, bon, il y a la canicule, on va avoir une nouvelle phase de chaleur. Est-ce que tu penses que ça a des chances quand même d'être central dans la campagne électorale, ou est-ce que tu es un peu plus pessimiste?
Je pense que quand même, elle commence. Enfin, là, on est à un moment de la campagne où les programmes sont en train d'être élaborés, où la parole politique des dirigeants, elle est scrutée quand même à l'aune du débouché électoral. On voit qu'il y a eu quand même des mouvements, hein, des mouvements idéologiques et programmatiques qui ont été effectués, y compris à droite de l'échiquier politique. Donc, ce qui montre que ça a quand même une certaine influence. On va reparler des sujets écologiques parce que là, on a une sécheresse dantesque qui s'amorce. On va potentiellement avoir de nouvelles vagues de chaleur. Après, évidemment, on va avoir l'hiver et peut-être qu'au printemps prochain, on aura un peu oublié tout ça. Mais encore une fois, pour moi, la question écologique, elle se joue pas sur l'écologie, elle se joue sur la question sociale. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on est en capacité de ramener une majorité derrière un projet politique qui place au cœur la question sociale, c'est-à-dire la lutte contre le capital? Il y
Oui,
a plein d'écologistes. En
il
fait, la priorité, c'est de mettre au pouvoir des gens qui ont des assises politiques qui leur permettent d'entreprendre un combat frontal avec le capital et la classe capitaliste. C'est le prérequis avant toute politique écologique, un tant soit peu significative. Et donc ça, c'est pas nécessairement en parlant d'écologie que ça arrive, quoi.
Bien sûr, et quand on parle de services publics, hein, de services publics ou de barbarie, moi je suis d'accord avec ça, sauf qu'il y a un moment où il faut aller à la conflictualité. Parce qu'en fait, les
Ouais.
services publics, c'est le monde commun, et le monde commun, il faut le défendre. Moi, je le
Ouais,
vois dans l'éducation
la lutte
nationale,
sera.
dans la santé, On partage ce monde-là. C'est pour ça qu'il y a des liens à faire entre la 69, l'hôpital, les services publics en général. Tu parles du commun, c'est ça. Sauf qu'il ne faut pas être dupe. Hein. On n'obtiendra pas de résultats sans élever un certain niveau de, voilà, un certain niveau de conflictualité. C'est
Ouais,
ça que c'est.
mais t'as raison, il faut assumer le conflit, il faut assumer le clivage en fait. Et
Ouais,
l'écologie,
je
pour moi,
suis.
l'avenir de l'écologie, je le répète souvent, mais c'est la lutte des classes. Et la lutte des classes, c'est pas la sensibilisation, la conversation, le dialogue, c'est la lutte, c'est le combat.
C'est ce qui sort très très bien de ton livre. Je le montre ici. Alors c'est à l'envers. Pourquoi l'écologie perd toujours? Donc c'est au seuil. Alors ce qui est très bien dans ce livre, je vais en faire un peu la réclame 2 secondes. Ce qui est très bien, c'est que la généalogie est formidable. Donc tu pars en fait de voilà Watson, Greenpeace, et tous ces discours et surtout le spectacle. Je suis allé voir d'ailleurs la photo où ils sont devant le brise-glace. Hein.
Ouais, tu l'as
Les
vu.
deux
Ouais.
compères, parce que tu m'as mis ça en
Magique.
tête, et en effet, ce brise-glace monumental, l'instrumentalisation aussi par rapport à la guerre, pendant la guerre froide, hein, où les Américains, alors
Ouais.
on allait embêter, enfin plus que ça, les Soviétiques, mais on laissait les Japonais, bon, et les Norvégiens pêcher la
Ouais.
baleine, etc. Donc, tout ce jeu de dupes, évidemment, tu retraces aussi dans le livre une généalogie fine, enfin, de toute cette écologie de participation et d'agrément et de climatisation. Hein, c'est très très bien fait. Et à la fin, alors bon, il y a tout un passage sur le contemporain, et évidemment avec des citations bien senties de Nietzsche et de Debord, pour ne rien perdre. Et à la fin, donc il y a cette conclusion vraiment incroyable sur le massif du Mont-Blanc. Est-ce que tu pourrais en conclusion nous en dire un peu plus, revenir sur cette conclusion, un peu cette épreuve que tu as, voilà, c'est cette épreuve un peu à la fois de no nostalgique et tragique, un peu. Hein, il y a un côté
Ouais.
tragique que tu décris, et à la fois volontariste. Hein, tu dis, nous sommes tenaces et on ne nous brisera pas en une nuit. C'est une citation de Nietzsche.
Elle est
Est-ce que
belle.
tu pourrais conclure, voilà, sur cette expérience du Mont Blanc et de la mer de glace, et parce que on a tous fait cette expérience. Moi, je fais cette expérience dans le Jura quand j'y vais de temps en temps. Je vois le recul de la frontière, enfin des sapins, enfin ça recule. Je me souviens de Mout. Moi, quand j'étais gamin, il y avait du moins de 35. Aujourd'hui, il faut y aller au mois de février. Ça fait juste peur, en fait. Bon, on n'en est plus du tout là. On peut plus faire de ski à Métabier, du ski de fond comme on faisait avant. C'est très compliqué. Bon, on a tous notre expérience. Hein. Tu parlais de, on a tous une ZAD ou quelque chose dans notre environnement proche, et on a tous cette expérience-là. Est-ce que tu pourrais, voilà, en conclusion, nous parler de cette expérience que tu décris dans vraiment de très belles pages à la fin de ton livre?
Bah merci pour le compliment. C'est effectivement un événement subjectif qui a participé, hein, à la genèse de l'écriture de ce livre. En l'occurrence, moi, j'ai grandi dans les Alpes, au pied du massif du Mont-Blanc. Et dans les Alpes, il y a la mer de glace, qui est un glacier, une langue glaciaire qui descend l'aiguille du Midi, qui passe sous les Jorasses, que j'avais parcouru à ski quand j'étais enfant, que j'avais longé aussi avec ma mère en montagne à cette époque-là. Et déjà, elle avait constaté que par rapport à sa propre enfance, en fait, là, la langue de glace avait commencé à reculer, alors que c'était dans des proportions qui ne sont pas celles d'aujourd'hui. Et déjà, elle m'avait dit ça, et ça m'était un peu resté dans la tête, comme un site sensible, quoi, qui était témoin de quelque chose, peut-être la destruction du paysage, peut-être les effets dissolvants du temps qui passe ou ce genre de choses. Enfin, ça avait, dans mon inconscient en tout cas, ça c'était passé ça. Et puis les dernières années, je pense que les 10 dernières années, alors que je fais beaucoup de rando, y compris en solitaire, parce que ça me permet de méditer un peu et de clarifier mes idées. Bah, ces 10 dernières années, alors que j'ai, voilà, pris l'habitude de vraiment sillonner les Alpes, hein, qui sont mon jardin en quelque sorte, le massif du Mont-Blanc. Bah, j'avais toujours évité de retourner voir ce site-là. Voilà, je sais pas pourquoi. Je pense que parce que j'avais pas envie de voir en fait ce que c'était devenu et ce que j'y verrais. Et donc je m'étais tenu éloigné de ça. Et c'est vrai que ces dernières années, il y a quelque chose de latent, il y a une espèce de fièvre latente dans le paysage alpin où on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Qu'il y a un accident latent qui est en train de se diffuser petit à petit. Les Alpes, c'est l'endroit qui se réchauffe le plus vite en France et en Europe, hein. Donc les conséquences sont réellement tangibles. Et puis là, j'ai décidé d'y aller après pas mal de désillusions à Greenpeace où je travaillais. un peu comme une espèce de purgatoire, c'est-à-dire pour me confronter à la réalité physique et monumentale du réchauffement climatique. Sortir des bureaux, sortir des statistiques, sortir des éléments de langage, sortir même des éléments ou des composantes théoriques, disons, de ma perception des choses. Et donc, je me suis aventuré sur ces sentiers que je n'avais pas parcourus depuis des années et des années. Je suis arrivé au signal fort qui surplombe, en fait, la fin de la mer de glace. Et là, il y avait juste un tas de gravats à peine discernables dans la lumière crayeuse, et des gens qui expliquaient à leurs gamins que voilà, c'était là qu'il y avait la mer de glace avant, et qu'on la voyait plus trop désormais. Et là, voilà, j'ai été saisi vraiment d'effroi et de tristesse. Enfin, je me suis mis à pleurer, en fait, hein, fondamentalement, face au paysage, ce qui m'arrive pas très souvent, parce que je suis plutôt de nature pudique ou réservée. Et là, c'était vraiment plus fort que moi, et j'ai mesuré, en fait, dans l'épaisseur de la mer de glace disparue, bah, l'épaisseur des renoncements, hein, des renoncements sociaux, politiques, mais aussi des renoncements militants, en fait, que j'avais acceptés pour devenir un professionnel de la cause, en quelque sorte. Et donc voilà, ça a été un moment de saisissement autocritique assez fort, assez bouleversant. C'est ce qui m'a aussi décidé à écrire ces pages, bon, qui sont sans concession sur ce milieu-là, sur ce secteur-là, mais qui sont aussi un regard sévère sur ce que j'ai pu faire aussi ces dernières années
Mais
moi-même,
c'est
quoi.
ça qui est, moi, c'est ça qui est remarquable dans ce livre, c'est justement ta capacité d'autocritique, de revenir sur ce parcours. Moi, j'ai trouvé ça fort parce que c'est justement ce travail un peu de guérilla interne avec soi-même, hein. On est tous
Ouais.
pris aussi là-dedans, hein. On a tous nos schémas de blocage, on a tous nos dénis, hein, aussi tout simplement, parce que c'est très dur, hein. On a plein, il n'y a pas que ce problème-là, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes, donc on est face à ça. Et souvent, je dirais, le réflexe, c'est de dire non, mais de toute façon, c'est trop grand, c'est pas, ça ne me concerne pas, ou les autres ont qu'à faire aussi, etc. Je crois qu'il faut vraiment s'interroger, c'est fort de terminer par ça, parce que c'est une vraie méditation sur nous. Nous-mêmes, en fait, il y a une vraie, vraie question anthropologique, à mon avis, centrale, majeure. Il y aurait plein, plein de liens à faire, évidemment, avec des réflexions de philosophes du contemporain, enfin, Günther Anders. Je
Ouais.
parlais aussi, on en parlait, on n'a pas eu le temps, mais catastrophisme, administration du désastre et soumission durable de Riesel et Samprin, c'est ça, enfin, c'est-à-dire cette idée, en fait, que il va y avoir une administration technocratique et capitaliste du désastre, et il faut refuser ça, il faut absolument refuser ça, et ça ne peut se faire que dans l'adversité. Jean, je
T'as tout
voulais,
dit.
c'est
T'as tout dit.
voilà, l'adversité. Alors justement, par rapport à l'adversité, je rappelle que QG lance à la rentrée une nouvelle émission qui s'appelle Duel. Alors c'est pas un affrontement directement avec le capitalisme, c'est un affrontement un peu dans la midée, c'est-à-dire hein, mettre des positions qui se font face pour les confronter. Voilà, se confronter à des positions d'opposition, à quelqu'un par exemple qui pourrait te dire, Clément, ben voilà, moi là-dessus je te réfute, etc., sur tel ou tel point. Et donc j'ai mes
On va voir
arguments.
ça.
Voilà, ce qui n'était pas ma position, parce que tu m'as quand même largement convaincu. Mais donc c'est un autre format d'émission où on va avoir une conflictualité. Évidemment, vous le savez que QG a une autonomie, une indépendance, et ça ne passe pas évidemment sans abonnement, sans participation, à la hauteur de vos moyens. Hein, je rappelle que donc via le lien qu'on va vous mettre dans le chat ou sur le site de Libre QG, vous pouvez participer. Il y a déjà un certain nombre de dons qui ont été faits et qui nous permettront à la rentrée de faire cette émission Duel. Une émission de conflictualité pour véritablement durcir et muscler vraiment le schéma d'opposition et pas tomber dans ce que tu décris très bien, hein, cette espèce d'atmosphère d'accompagnement du désastre, parce que c'est quand même ça. Voilà, Clément Sénéchal, je conseille la lecture et l'article dans Frustration, très bon article il y a quelques jours. Merci Clément beaucoup enfin, pour tes analyses hein, qui sont fortes, qui sont
Merci à toi,
fortes.
Arnold, c'est
Pas
la parole.
désespérante, mais forte,
Ouais.
ça c'est clair, sans concession. Voilà. Tu as sorti d'ailleurs quelques posts que j'ai beaucoup appréciés, justement, sur cette violence, en fait, ce capitalisme dans les corps. Hein, je crois qu'à un moment donné, tu as cette formule qui est très forte. Voilà, merci à toi encore d'être venu, et puis on se retrouvera bientôt. Merci à toutes et à tous, et je rappelle que, voilà, QG vit, et on va faire en sorte que ça dure de votre soutien. Donc voilà, pensez dans la mesure de vos moyens à nous aider. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci encore Clément.
Avec grand plaisir, merci pour l'accueil.
Bonsoir.
À la prochaine.
Au revoir.